Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
L'Association des professeurs d'histoire et de géographie, l'APHG, est une vieille dame. Elle a été créée en 1910. Elle édite une revue de référence intitulée « Historien et géographe ». Après l'assassinat de Samuel Paty, professeur victime du terrorisme islamiste, l'association a créé un prix. Elle le porte avec les professeurs, le prix Samuel Paty. Je lis. « Afin de favoriser la cohésion et la coopération grâce à un projet de classe, il est centré sur les principes et valeurs de la démocratie, au cœur de la construction intellectuelle et citoyenne des élèves, en lien avec les programmes d'éducation morale et civique, d'histoire, géographie et de spécialité. Samuel Paty, Dominique Bernard, des martyrs, oui mais des martyrs de quoi? De la République, de la démocratie, de l'éducation, de l'humanisme ou tout simplement de l'humanité, un peu de tout ça, sans doute, les enseignants, les enseignantes, avec leurs élèves, contre l'obscurantisme et pour l'émancipation.
Bonjour à tous, nous sommes la classe de 4e G du collège Jacques-Yves Cousteau de Breuil-le-Vert.
Nous allons vous présenter notre projet pour le prix Samuel Paty 2023, dont le thème est « Les infox, quel danger pour la démocratie ?»
Nous avons imaginé un scénario qui montre comment une infox pourrait circuler et s'étendre au point de menacer notre démocratie.
Que s'est-il passé pour en arriver là ?
La question qui est posée ici, que s'est-il passé pour en arriver là? Je pense que tout le monde se la pose sans cesse, et les élèves les premiers. Elena Pavel, bonjour.
Bonjour.
Que s'est-il passé pour en arriver là? C'est quelque chose qui revient dans les questions des élèves souvent. Où en sommes-nous? Que s'est-il passé? Pourquoi?
Alors je dirais que c'est un questionnement qui revient plutôt dans la bouche des professeurs que des élèves. Puisque les élèves sont face à une actualité qui les bouleverse, qui les touche. Enfin, ils sont quand même submergés depuis quelques années par des actualités qui se suivent. C'est plutôt nous, enseignants, qui nous posons la question de savoir comment sommes-nous devenus des cibles, en fait.
Sébastien Ledoux, bonjour.
Bonjour.
Ah ben, il y a des carrières que nous portons tous et toutes, des carrières sur un temps plus ou moins long qui nous permet de voir une évolution, et la question là prend tout son sens. Tous ces questionnements sont absolument nouveaux. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est des discussions de salle des profs entre collègues sans cesse?
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce sont des questions inédites. On n'est absolument pas préparé à ces réalités-là, à ces événements-là, et qu'il faut, il me semble, construire ensemble une réponse. Et il me semble que justement le prix Samuel Paty de la PHG est l'une des réponses les plus pertinentes qui soient. En fait, on en parlera peut-être juste après, mais en fait, oui, on est déjà absolument pas préparé à ce genre d'événement. Je crois que c'est ça la question, le diagnostic majeur. Donc, il faut construire ensemble.
Ouais, ne pas être préparé à l'événement, c'est vraiment ce que tout le monde ressent. Et comment agir? Que dire? Que faire? Dalila Chalabi, bonjour.
Oui, bonjour. Merci de votre invitation.
Non, c'est très important d'avoir la parole des enseignants, des enseignantes. L'Association des professeurs d'histoire et de géographie, dont vous êtes la secrétaire générale adjointe, a réfléchi après l'assassinat de Samuel Paty, tout simplement à que faire. Donc l'idée d'un prix s'est créée de quelle manière?
Nous avons échangé en fait parmi nos collègues d'enseignement moral et civique et d'histoire géographie adhérents à l'association des professeurs d'histoire géographie, et nous avons souhaité créer un prix qui favorise en fait la cohésion et la coopération entre les élèves grâce à un projet de classe, donc en lien avec les programmes d'enseignement moral et civique ou de spécialité, et surtout autour des principes et des valeurs démocratiques. Donc le but, c'était vraiment de réfléchir à un projet commun, collectif, autour d'un thème annuel. Alors le premier thème était lié à la liberté d'expression. Le thème 2023 était axé sur les informations, les fausses informations, les infox, en tant que danger pour la démocratie. Et comme vous le verrez, le prochain thème traite de la laïcité à l'école.
Pour le prix 2024, le prix Samuel Paty 2024, la laïcité à l'école. Elena Pavel, vous êtes professeure d'histoire-géographie, vous enseignez dans l'Académie de Paris, vous enseignez au collège, vous êtes membre du bureau national de l'Association des profs d'histoire et de géographie, et vous participez au comité de pilotage du prix Samuel Paty. Comment ça s'organise ce prix-là? Qui est concerné?
Alors concrètement, c'est ouvert à tous les publics scolaires, La première année, c'était ouvert uniquement aux collégiens. Ensuite, on a eu des demandes des enseignants de lycée. On a commencé à rencontrer, je dirais, un petit succès, assez modeste, mais avec un peu de visibilité. On a eu la demande des lycées et on a été cette année submergé de production lycée. C'est-à-dire qu'on a à peu près sur plus d'une centaine de productions, c'est 2/3, 1/3 lycée-collège. Ce qui est assez étonnant, mais ça veut dire que les collègues de lycée se sont vraiment emparés en fait des thématiques, surtout que en AGGSP et sur la liberté dans les programmes de MC, on a quand même beaucoup de réflexions sur les infox. Et on a eu une demande cette année pour le primaire. Donc la nouveauté de l'année prochaine, c'est l'ouverture aux classes de cycle 3, donc CM1, CM2 aussi, du concours. Donc en fait, on lance les inscriptions comme un concours scolaire classique. On reçoit des dossiers qui doivent être complets, etc., des petites notes d'intention. Et ensuite, on s'organise tout simplement en jury. On répartit par lot, je dirais, les productions. Et puis on échange assez longuement. Voilà.
Quand il est question de lycée, lycée général, technologique et également lycée professionnel avec, c'est l'éducation nationale, hein, AGGSP, l'histoire, géographie, enfin, ce sont les spécialités, on va dire, et puis EMC, c'est l'éducation morale et civique. Sébastien Ledoux, tout cela s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste. Au lendemain de l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu des réflexions, mais dans tous les sens. C'est ce que vous avez évoqué, c'est comment agir, que faire et au moins discutons.
Alors, bon, moi, il se trouve que j'ai fait mené un projet de recherche sur l'école face aux attentats depuis 2017. Donc, j'étais comme rattrapé par cet événement de l'assassinat de Samuel Paty en 2020, alors que j'étais en train de terminer un corpus. Donc, à partir d'entretiens assez larges. Les discussions, elles ont lieu, en fait, dès janvier 2015. Puisque on va considérer en janvier 2015, avec l'attentat de Charlie Hebdo, que vous avez une école qui est, pas ciblé directement, mais en tout cas responsable de quelque chose. Et donc, ce qui a posé problème à un certain nombre d'enseignants, justement, qui se sont sentis injustement visés par, on va dire, une sorte d'emballement politico-médiatique pour dire que l'école était plus ou moins responsable de ce qui s'était passé, dans la mesure où les terroristes, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les terroristes étant scolarisés en France, finalement, il y avait une responsabilité. Bon, ce qui me paraît complètement inepte. Mais en tout cas, ces discussions-là, effectivement, ont eu lieu déjà au niveau du cabinet ministériel. Moi, mon enquête, en fait, m'a permis d'interroger les conseillers ministériels et la ministre de l'époque. Et donc, on a enclenché toutes ces réflexions avec le CLEMI sur la critique des images, sur la laïcité, qui était déjà engagée avec la charte de la laïcité de Vincent Peillon. Bon. Donc, tout ça, effectivement, continue à, je dirais, produire une réflexion. Et en même temps, je trouve que le prix de la PAG, je me suis greffé sur ce prix cette année, en tant que jury, membre du jury, je trouve qu'en fait, ce qui est vraiment à noter, c'est que ce prix-là répond sans détour aux événements. C'est-à-dire qu'on est sur, finalement, du vivant contre la mort, on est sur de la réflexion contre la peur, parce qu'effectivement, il y a un sentiment de peur et là, très actuel, malheureusement. Et on est vraiment sur le faire réfléchir les élèves. Et c'est ce qu'on voit quand on voit les productions. C'est des élèves qui ont réfléchi avec leur enseignant pendant des mois et des mois sur tel ou tel thème. Donc, donner un cadre et offrir un cadre de réflexion pour maintenir un lien aussi entre les enseignants et les élèves, qui est, et il ne faut pas se voiler la face non plus, avec ces deux attentats terroristes, malheureusement, ça a aussi touché une communauté enseignante, parce que vous avez des élèves, anciens élèves pour la semaine dernière, et puis des élèves par rapport à Samuel Paty qui ont pu jouer un rôle. Et ça, c'est quelque chose qui a touché aussi les enseignants. Donc là, ça me paraît fondamental, effectivement, d'accompagner des enseignants et des élèves dans des productions et dans des réflexions collectives.
Sébastien Ledoux, vous êtes maître de conférence à l'université Picardie-Jules Verne, et cette réflexion sur la mémoire, le devoir de mémoire, vous en avez fait des ouvrages, hein, le dernier, vous avez co-dirigé cet ouvrage « Transmettre l'Europe à la jeunesse ». Vous avez évoqué le fait que ces terroristes sont passés par le système scolaire français. C'est aussi quelque chose qui est très important parce que, et là c'est plus un regard historique, pendant longtemps le terroriste c'était l'autre, venu de loin, qui s'attaquait à nous. Là on n'est plus du tout dans cette lecture-là.
On a complètement changé de lecture et de par les faits, évidemment. Hein. Donc, on a connu des vagues de terrorisme, malheureusement, dans les années 80-90. Si on réduit le terrorisme, c'est encore plus long. Hein. Enfin, vous avez consacré des émissions à cela ici. Mais en tout cas, sur ce type-là de terrorisme, au nom de l'islam, on va dire, dans une instrumentalisation religieuse. C'est les années 80-90. C'est une figure complètement extranationale qui apparaît, avec des terroristes qui interviennent de par l'étranger, de par les pays étrangers. Et puis là, effectivement, avec 2012 déjà, à Toulouse, hein, avec, avec Mohamed Merah, et puis avec 2015, les frères Kouachi, on a là des figures intérieures. Et donc se joue une autre question, une autre problématique, qui porte à une certaine sidération au départ, mais il faut en faire quelque chose. La sidération, c'est mais comment, en fait, effectivement, ces individus, ces élèves qui sortent de la scolarité française peuvent attaquer, justement, les valeurs de la République et aujourd'hui les professeurs. Bon. Donc, elle est abyssale, la question. Elle nous est vraiment vertigineuse et il faut la prendre à bras le corps. Et on est avec une certaine modestie. Je pense que vraiment, le prix APAG, c'est aussi ça. C'est avec nos outils, hein, de façon très modeste. On est là à répondre à notre niveau.
Dalila Chalabi, d'ailleurs, le prix Samuel Paty a un thème, hein. Vous avez rappelé ces différents thèmes. Cette année, c'était les infox, l'année prochaine, la laïcité à l'école. Parce que ça ne sert à rien de réfléchir juste à un angle très fermé qui serait le terrorisme, étant donné que l'ensemble de ce qui environne les élèves est relié pour expliquer cela. Donc cette année, les infox, et j'imagine que ça a produit beaucoup de choses très intéressantes, parce qu'il y a de quoi dire.
Oui, tout à fait. Lorsque nous choisissons un thème en collectivité, nous essayons donc de le mettre en lien avec nos programmes d'enseignement moral et civique, et surtout, nous nous appuyons en fait sur les retours de nos collègues sur le terrain qui souhaitent en fait travailler sur tel ou tel sujet. Donc effectivement, les infox ont permis justement de comprendre le fonctionnement d'une fausse information, de la déconstruire, d'amener les élèves en fait à exercer leur esprit critique dans le cadre de l'enseignement moral et civique, mais aussi de l'éducation aux médias et à l'information. Cela a permis de produire des travaux très intéressants, notamment des podcasts, des bandes dessinées, des jeux. On a eu un jeu sur la démocratie qui est mise en danger par justement les infox. Et le nouveau thème, effectivement, la laïcité à l'école, un principe pour se respecter les uns les autres, nous permet de produire un lien finalement entre un principe républicain et des valeurs, hein, les valeurs de respect, de fraternité notamment. Je dirais que ces thèmes sont vraiment essentiels. C'est une autre manière de travailler avec les classes, donc en groupe. Ça peut être, cela peut être des travaux transdisciplinaires avec d'autres disciplines, hein, les lettres, la philosophie et d'autres. Hein. Et je dirais que cela vraiment permet aux élèves de coopérer et de travailler autour de ces principes et valeurs démocratiques.
Et puis de réfléchir tout simplement à l'information. Comment s'informent les élèves ?
Bonjour, comment vous vous informez au quotidien ?
Bonjour, je m'informe en regardant le journal à la télévision tous les soirs.
Sur les réseaux sociaux ?
J'écoute la radio ou je lis des articles sur Internet ou dans les journaux.
Un peu sur les réseaux sociaux, je m'informe peu, ça m'intéresse pas trop, je trouve souvent ça déprimant.
Je regarde la télé et j'écoute la radio.
Comment faites-vous pour vérifier les informations que vous entendez ?
Je ne vérifie pas, je fais confiance à la télévision.
Je demande aux gens que je connais ce qu'ils en pensent.
Je cherche des renseignements sur d'autres sites ou d'autres médias.
Je ne vérifie pas trop.
J'essaye de chercher d'autres informations quand quelque chose me semble bizarre.
Et que pensez-vous de l'infox et du hashtag Tous en Noir ?
Ça me fait peur de voir des manifestations de gens qui y croient. J'espère que cette mode passera rapidement.
Je trouve ça triste et ridicule. En plus, l'auteur a tout avoué. Qui peut croire ça encore, franchement ?
Je ne m'habille plus en noir depuis que ça a commencé. J'ai peur qu'on m'interpelle dans la rue ou qu'on se méfie de moi.
Je sais pas à quoi en penser. Beaucoup de personnes m'ont parlé de ça. Je n'y croyais pas. Et maintenant, je me pose des questions.
Je crois pas que ce soit une infox, tout le monde en parle sur les réseaux et beaucoup de mes amis trouvent aussi bizarre qu'une vidéo qui dénonce le gouvernement soit censurée comme ça.
Un extrait de la production de la classe de 4e du collège Jacques-Yves Cousteau à Breuil-le-Vert, c'est l'Académie d'Amiens. Professeur Madame Émilie Havard, pour la catégorie collège, c'est le premier prix. Elena Pavel, on a déjà cité le CLEMI, l'éducation nationale avec ses sigles. C'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Vous êtes coordinatrice académique pour le CLEMI. Et c'est vrai que la base de toute cette réflexion aussi, c'est de comprendre comment les élèves fonctionnent, quel rapport ils ont à l'information. Et là aussi, c'est un autre monde avec les réseaux sociaux.
La façon de s'informer des élèves a quand même énormément évolué hein, depuis 2015 avec l'arrivée du numérique. Et auparavant, les élèves s'informaient, je dirais, comme leurs parents. C'est-à-dire qu'il y avait la télé qui était allumée à la maison où il y avait un journal qui traînait. Et les élèves, du coup, regardaient ce genre de choses. Aujourd'hui, en fait, ils ont un canal direct dans leur poche avec le téléphone. Et donc, ils sont un peu les réceptacles de tout ce qui passe, de tout ce qui traîne. Et je dirais que nous, notre travail au CLEMI et enseignants qui faisons de l'EMI aussi, puisque je fais les deux, c'est de leur apprendre en fait à trier l'information. L'idée, c'est pas un enseignement descendant, c'est une éducation. Il y a une grande différence. Donc c'est de leur faire acquérir les réflexes de questionner la source, même si c'est drôle hein, ce qu'ils disent dans la vidéo, parce qu'il y a quand même un sondage qui a été fait en début d'année par Milan Presse, qui montre quand même que les deux ressources vers lesquelles se tournent les enfants et les ados pour savoir si une information est vraie, c'est les parents et le prof. Donc ça, quand même, il faut le dire, on a beaucoup de questions dans les classes et à nous ensuite de les aiguiller, en tout cas de leur apprendre à se défendre contre les fausses informations.
Oui, Dalila Chalabi, c'est vraiment ça aussi, un jeu entre le fantasme des élèves qui ne s'informeraient que sur des réseaux sociaux complètement alternatifs et puis une certaine forme de réalité où il y a chez les plus jeunes une vraie attente pour savoir où se diriger pour avoir des informations justes.
Oui, tout à fait. Je dirais que nous, en tant qu'enseignants d'histoire-géographie, nous travaillons sur des sources hein, historiques, sur des sujets d'actualité aussi. Et par conséquent, nous sommes amenés à les guider, à les accompagner dans la lecture critique hein, de ces sources d'information, à les aider à identifier les sites, les sources au niveau de la presse hein, qui seraient les plus pertinentes possibles justement pour exercer leur esprit critique et leur permettre d'identifier hein, les informations, des fausses informations. Donc tout un travail est fait, hein, que ce soit au collège comme au lycée, en histoire, en géographie également, parce que nous avons aussi des cartes hein, qui peuvent être manipulées, mais aussi en enseignement moral et civique hein, par rapport à toutes ces sources d'informations.
Dalila Chalabi, on pourrait rajouter dans toutes les disciplines.
Tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est vraiment un travail collectif en fait. Hein. Je dirais que l'apprentissage de la citoyenneté doit être le fil conducteur de toutes les disciplines, que ce soit les lettres, la philosophie, les mathématiques. Hein. Nous sommes amenés à partager des notions comme celles de fraternité, de respect, de liberté. Et notre objectif à tous, c'est de faire en sorte que nos élèves soient des citoyens capables de réfléchir par eux-mêmes, d'avoir un jugement. Dans le cadre justement de ces enseignements laïques, hein, dans toutes les disciplines, comme vous l'avez très bien précisé.
Toutes les disciplines, Elena Pavel.
Oui, je voudrais juste ajouter par exemple qu'en français, en quatrième, vous avez un chapitre sur l'information et la désinformation. Parce que souvent on dit toutes les disciplines et puis on a du mal à citer des exemples concrets. Alors la philosophie, ça semble une évidence. On cherche à mobiliser de plus en plus les collègues de sciences, parce que si vous avez suivi un peu l'actualité en termes d'infox, avec la 5G, le vaccin, le Covid, en fait, en fonction des actualités, vous avez des infox différentes qui vont se construire. Et donc en fait, l'idée, c'est quand même de mobiliser l'ensemble des collègues. Et le CLEMI propose là-dessus des ressources et de comprendre que l'EMI et l'EMC, ce n'est pas seulement l'apanage du professeur d'histoire-géographie.
Et c'est très important de le souligner parce que sinon, on est sur une lecture très fermée en fait, de toute cette histoire-là. Sébastien Ledoux.
Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, on revient une fois de plus aux attentats terroristes avec cet enjeu-là, puisque en janvier 2015, vous avez eu dans les salles de classe aussi des réactions de type conspirationniste auxquelles ont dû faire face des enseignants, et donc il y a eu des remontées par rapport à ça. Et donc c'est un moment où, le 8 janvier et les jours suivants, où on prend un peu le pouls des salles de classe pour se rendre compte, en tout cas au niveau du cabinet ministériel, qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour justement de cette question-là et comment lutter contre les thèses conspirationnistes qui sont effectivement, en gros, selon les études d'opinion partagées par 20 à 25% des jeunes. Donc là, il y a effectivement un enjeu qui a été très 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 clairement identifié à ce moment-là. Là, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo.
Oui, et puis avec Charlie Hebdo, il y a eu ce moment très complexe lié à la minute de silence, en train d'essayer de repérer tous ceux qui ne se disaient pas Charlie, avec des incompréhensions très nettes, mais même de la part des élèves, par la reconnaissance. Était-ce dénoncer les attentats ou accepter les caricatures, et certains gamins étaient complètement paumés pour se positionner.
Alors, ça c'est effectivement l'un des apports, je dirais, si je peux me permettre, de mon enquête, de montrer que vous avez une zone grise chez certains élèves qui ne sont pas forcément dans la provocation du genre, ce qu'on a entendu, et malheureusement encore il y a quelques jours, il l'a bien mérité, ils l'ont bien cherché, etc. Mais qui sont simplement là, au lendemain de l'attentat, avec un slogan qui domine, qui est « Je suis Charlie », qui a dominé extrêmement fortement, en fait, dans l'espace médiatique, dans les réseaux sociaux, on retrouve les réseaux sociaux, au bout de quelques heures, je veux dire, dès le soir même, c'est « Je suis Charlie » est devenu le slogan majoritaire, ça a été très bien étudié en plus par différents chercheurs, et donc des élèves, effectivement, de confession musulmane, qui, à la demande de respect de la minute de silence, en fait, se retrouvent dans une situation très inconfortable parce qu'ils n'ont pas envie d'adhérer à ces caricatures-là. Et ils prennent la demande d'observation de la minute de silence comme une adhésion aux caricatures de leur prophète qui les choque. Donc là, il y a en fait un malentendu qui s'est rejoué en quelque sorte, bon, ce que j'ai pu noter après Samuel Paty, où ils prennent cette injonction comme une adhésion aux caricatures de Charlie Hebdo qui les choque. Donc là, il y a eu effectivement cette zone grise-là, dont on n'a pas trop entendu parler. Hein. On a plutôt entendu parler des provocations, et là, évidemment, il faut réagir. Mais il y a effectivement cette frange de public scolaire, de musulmans qui ne sont absolument pas dans l'adhésion aux actes terroristes, qui sont dans une situation très inconfortable à ce moment-là.
Et puis c'est cette situation-là qu'il faut étudier parce que il y a, on parlait de l'éducation aux médias, la nécessité de notre part à tous d'être vigilants sur l'effet loupe des médias qui pointent du doigt tous les comportements considérés comme déviants après l'assassinat de Dominique Bernard, qui a été mais vraiment une absolue horreur parce que l'idée que Samuel Paty était un prof qui avait été tué, mais que ça ne se reproduira plus jamais, c'était de dire non, ça peut continuer. Il y a eu des problèmes lors de la minute de silence, 179 je crois, Dalila Chalabi, c'est vrai qu'il faut rappeler, malgré tout, faut pas les minimiser, mais c'est de dire que ce n'est pas un phénomène massif.
Oui, tout à fait. 170 incidents, si nous les comparons au chiffre total des élèves. Donc, nous avons 12 millions d'élèves en France. Donc, c'est un chiffre, finalement, qui est dérisoire par rapport à ce chiffre, au nombre d'élèves total. Donc, moi, je dirais que la question soulevée est plutôt celle-ci, c'est-à-dire se questionner sur les raisons qui expliquent ces contestations. Pourquoi certains élèves n'acceptent pas cette minute de silence? Pourquoi la contestent-ils? Donc moi, je dirais que ces élèves n'adhèrent pas aux valeurs républicaines. Donc l'éducation nationale doit se questionner. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, le second point, c'est de montrer que finalement, les élèves, en fait, quand ils arrivent au collège ou au lycée, arrivent avec leurs croyances, leurs valeurs personnelles. Donc, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de les amener à distinguer les valeurs personnelles des valeurs républicaines, puisque les deux, en fait, entrent en tension. Et notre travail à nous, en tant que professeurs, hein, que ce soit professeurs d'histoire-géographie ou autre, c'est vraiment de les accompagner dans cette distinction et de bien leur montrer que nous n'entrons pas en concurrence avec leurs valeurs personnelles, mais que l'objectif, c'est vraiment de le vivre ensemble et de leur permettre de réussir leur scolarité.
Dalila Chalabi, vous êtes formatrice académique en laïcité, valeurs de la République, laïcité. Mais c'est terrible ce mot laïcité parce que nous évoquons sans cesse ces zones grises, ces malentendus. Pour certains élèves, le mot laïcité est perçu comme une forme d'athéisme ou un rejet de la religion. C'est pas ça, faut réexpliquer sans cesse ce qu'est la laïcité.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce que je peux noter en tant que formatrice laïcité, valeurs de la République, c'est que la perception, en fait, de la laïcité, du principe de laïcité, évolue auprès de nos élèves. C'est-à-dire que c'est un principe qui est vécu comme un symbole anti-religieux, finalement. Et nous le savons bien, la religion est quand même un point sensible pour nos élèves qui ont une vision manichéenne, hein, du monde, hein, le bien, le mal. Or, la laïcité est garante hein, de cette liberté de conscience et de la liberté d'exercice des cultes. Donc, je dirais qu'il est important, là aussi, d'éclairer nos élèves sur cette sur ce principe de laïcité, de contextualiser, parce que de leur montrer en fait que la laïcité s'inscrit dans un temps long, qu'elle fait partie de notre histoire et qu'elle est vraiment différente des modèles laïques qu'on peut retrouver dans le reste du monde. Parce que nous avons énormément de questions de la part de nos élèves qui nous disent « Mais pourquoi, par exemple, au Royaume-Uni, il y a une certaine tolérance religieuse, alors qu'en France, nous ne pouvons pas, par exemple, manifester notre religion au sein de l'établissement scolaire ?» Donc, effectivement, revenir hein, sur l'histoire de la laïcité en France, je pense que c'est primordial.
Ah bah, la question est complexe. D'ailleurs, Dalila Chalabi, vous leur répondez quoi à ce moment-là quand on vous dit au Royaume-Uni, on peut aller à l'école avec un voile et en France, ce n'est pas possible ?
Bah, je reviens vraiment sur l'histoire hein, de la laïcité en France en leur disant que notre laïcité est basée sur le principe d'égalité suite justement au conflit religieux et à la loi qui en découle, la loi de 1905 et ensuite donc la loi du 15 mars 2004. Et je reviendrai aussi sur les propos de Badinter lorsqu'il dit que l'école en fait a pour mission de développer en fait le culte du savoir. Donc c'est la laïcité en fait protège les enfants. Donc je reviens là-dessus et j'insiste sur cette idée de protection et d'égalité en fait entre les élèves.
Bon, il y a un enjeu très fort, hein, parce qu'effectivement, les différentes enquêtes au fur et à mesure montrent depuis plusieurs années un attachement dans la construction identitaire de certains jeunes à la religion, un sentiment d'appartenance très fort, une revendication à la liberté religieuse, à l'expression religieuse, et ça passe par la manifestation de vêtements. Et donc, ils voient, enfin, certains élèves, pas tous, mais certains élèves voient finalement dans la République une immense contradiction, puisqu'on leur dit que la laïcité est une liberté religieuse et que dans les faits, en fait, elle n'appliquerait pas ce principe de liberté. Donc là, il y a une contradiction qu'il nous faut, nous, expliquer. On revient évidemment à la loi de 1905, mais aussi à la loi de 2004. Et rappelons que, effectivement, par rapport à la commission Stasi, qui a eu lieu en 2003, et donc à partir de cette commission, on préconise l'interdiction des signes ostentatoires religieux à l'école. Il était effectivement question de ne pas, alors il y a deux choses à dire, de ne pas interdire les signes religieux dans l'espace public. Donc ça, c'est fondamental d'expliquer ça aux élèves, enfin vraiment, justement, pour bien montrer que la laïcité n'est pas contre les religions, mais que à l'intérieur de l'école, vous avez une période de construction individuelle des élèves qui va, nous, en tant qu'enseignants, nous amener à interdire tout signe ostensible qui risquerait d'être interprété comme du prosélytisme. Et donc, c'est pour ça que ma collègue parle de protection, effectivement, de la jeunesse. C'est de la protection, c'est pensé comme ça, et à juste titre, pour moi, hein, selon moi, dans l'idée qu'on est face à une jeunesse qui est en construction individuelle, qui est en construction de repères, je dirais, identitaires, et que donc, le risque posé, donc, il y avait eu un témoignage d'un élève qui avait dit que c'était soit ses parents qui l'obligeaient à porter justement un signe religieux, ou soit d'autres élèves. Donc, on veut l'écarter de ce genre de pression parce que, justement, il est jeune et il est en construction. Donc ça, c'est majeur de rappeler ça à chaque fois. Ce n'est pas toujours très bien compris, même dans une formation, puisque moi, je forme des futurs profs des écoles à Amiens. Ce n'est pas toujours très bien compris, mais il faut rappeler sans cesse ça. Et je dirais aujourd'hui, j'ai tendance à dire aujourd'hui, que vous avez une autre préconisation de 2003, de la commission Stasi 2003, qui, elle, n'a pas été retenue, en revanche, et malheureusement, c'était d'inscrire des fêtes religieuses principales de religions qui sont en France, le judaïsme et l'islam, d'inscrire dans le calendrier scolaire les deux fêtes principales, donc le Kippour et l'Aïd, à l'intérieur du calendrier scolaire, pour en faire des jours fériés. Et je trouve, franchement, vu la situation aujourd'hui, je trouve que ce serait impérieux de reprendre cette mesure-là pour bien montrer justement aux élèves qu'on est dans une laïcité ouverte qui n'est pas contre les religions.
Oui, c'est ça, la laïcité, ce n'est pas contre les religions, avec un rapport très complexe, Elena Pavel, des individus à la religion quand ils sont en construction et la religion se mêle à la quête d'identité. On le voit bien en tant qu'enseignant, enseignante, au moment d'enseigner le fait religieux, parfois une méconnaissance d'une religion qui est très affirmée.
Oui, je dirais que le paradoxe qu'on a, en tout cas au collège, c'est le grand écart entre la revendication, et souvent identitaire, culturelle, de la religion, et la méconnaissance historique en elle-même. Quand vous enseignez, par exemple, en cinquième, la civilisation de l'islam, souvent, les notes des contrôles, elles ne sont pas très bonnes, en fait. Donc, dès qu'on va rentrer un peu dans du technique, des dates, la symbolique de l'égir, placée sur une carte, alors là, on les a perdus. En revanche, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'ils sont persuadés, en fait, de maîtriser une forme de connaissance de la religion, et en fait, ils n'en maîtrisent que les codes et les apparats, et c'est ce qui est dommage. Alors certains qui connaissent un peu mieux la religion vont se détacher aussi de ces codes ou de ces apparats en disant bah non, mais en fait la religion c'est pas ça, vous savez, etc. Alors que certains vont s'engouffrer dans cette espèce de revendication identitaire, mais que les réseaux sociaux ont beaucoup attisé depuis plusieurs années par la mise en scène en fait des vêtements religieux, et donc il y a une espèce d'envie, de loyauté, d'injonction à se reconnaître, à appartenir à un type de jeunesse. Et là, on n'est plus que dans les apparences, en fait.
Et dans les apparences, avec toujours ces sources d'informations autres qu'il faut savoir contrôler. C'est l'œuvre de tout ce que nous évoquons, hein, le CLEMI, le Centre pour l'éducation média et l'information. Ce sont toutes ces démarches autour de l'EMC. Je reprends les sigles, hein, Éducation nationale, éducation morale et civique, et EMI, éducation aux médias et à l'information, surtout confrontée aux fake news.
D'après vous, qu'est-ce qu'une fake news ?
Aucune idée.
Oula, une mauvaise information sur Internet, c'est tout.
C'est quand une information elle traîne sur Internet et que c'est faux.
Bah, des informations mauvaises sur les réseaux, principalement.
Savez-vous reconnaître une fake news ?
Ouais, on s'entraînait en histoire cette année.
Ah oui, sur Twitter ?
Non. Enfin, si je la vérifie, oui.
Les fake news sont un danger pour la démocratie.
Ouais, mais ça dépend lesquels. Bah, parce que, par exemple, si on parle Michael Jackson, qui serait encore vivant, ça nous change rien, mais il y a des fake news d'autres qui pourraient changer.
Bah, parce que si tout le monde croit n'importe quoi, il n'y a plus rien qui va fonctionner.
Voilà, c'est une production pour le prix Samuel Paty 2023. C'est la classe de seconde professionnelle métier de la relation client du lycée Edmé Bouchardon à Chaumont. Ça se trouve en Haute-Marne. Il faut toujours donner le nom des professeurs. Vichenny Lebescon, qui a produit ce podcast. Alors, nous, à la radio, nous sommes très sensibles au podcast. Et là aussi, c'est fascinant de voir comment, accompagné bien sûr par les professeurs, les élèves, arrivent à réfléchir à tout cela. Moi, je ne veux pas être optimiste béat, mais face à une image très sombre qu'on nous expose d'une cette génération, il y a quand même une vivacité gigantesque. Sébastien Ledoux.
Alors, je vais parler d'une expérience, je pense, commune. C'est samedi dernier dans l'amphithéâtre de la Sorbonne.
La remise du prix
Samuel Paty au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard. Donc l'ambiance était extrêmement lourde. Le seul aspect positif, pour moi, mais je pense que c'est partagé, ce sont les élèves. C'était la présence des élèves, c'était leur prise de parole. Et donc, c'est-à-dire, je pense qu'on n'a on a pas le droit de les enfermer dans nos propres peurs, et qu'il faut continuer à les ouvrir à la réflexion, parce qu'à chaque fois, qu'il y a eu des projets, encore une fois, ce sont des projets de réflexion, on les a vus travailler, enquêter. J'ai le souvenir, chacun a ses souvenirs de projets, mais j'ai le souvenir de Foncarade, Montpellier, le collège Foncarade à Montpellier, où ils sont allés interviewer une députée, un journaliste, vraiment une enquête, une vraie enquête, et ça c'est pas juste une fois, c'est vraiment pendant des mois, une enquête de recherche, une sensibilité aux mots, donc tout un travail pédagogique qui, fait du bien aujourd'hui, ça c'est très clair, qui nous fait du bien et qu'il faut absolument poursuivre.
Ce serait une faute de ne pas citer la classe qui a remporté le premier prix pour les lycées, c'est la classe de terminale du lycée international Jeanne d'Arc. C'était une bande dessinée, c'est l'Académie de Clermont-Ferrand avec comme enseignant Mathias Gagnère. Et quand vous évoquez, Sébastien Ledoux, le fait que les enseignants se souviennent de leurs élèves, bien entendu, les élèves eux aussi se souviennent de leurs enseignants.
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous, joujou, genou, caillou, bijou et toute la gamme, géographie, récitation, histoire de France et rédaction. Oh quel programme! Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. Monsieur le maître d'école, je n'oublierai jamais le jour. C'était pendant le dernier cours, dernier bagage, quand j'ai senti poser sur moi votre main qui me disait tout bas, fais bon voyage, monsieur le maître d'école. Y a pas à dire, ces moments-là, on y repense bien des fois, on se les rappelle, et l'on est même tout étonné de ne jamais avoir donné de ces nouvelles. Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. La destinée un peu folle a fait de moi un député. Dans le pays, je suis invité comme un ministre. Je prends des airs de grand seigneur pour épater les électeurs que j'administre. Mais un jour, devant l'école, parmi la foule, vous étiez là. Vous m'avez dit bonjour, toi. Ça m'a fait drôle. Je suis redevenu le petit gars. J'ai murmuré comme autrefois. Bonjour, monsieur le maître d'école.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Bourvil qui chante le maître d'école dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Raphaël Rousseau. Nous réfléchissons aujourd'hui à l'émotion et aux réponses à apporter après les assassinats. Samuel Paty, Dominique Bernard, et parmi les réactions, on a vu Elena Pavel sur les réseaux sociaux notamment, il y a l'affirmation, et tout à fait légitime et honnête, de l'attachement des gens au corps enseignant, à leur école. On l'a vu beaucoup circuler. Mais attachement évident.
Attachement des gens, attachement des classes politiques, soudainement aussi. On est devenus les symboles de cette République qu'on attaque, quand parfois le reste de l'année, on l'est un petit peu moins, où on a l'air d'être un petit peu les moins travailleurs ou les moins investis. Donc voilà, ce qui peut être un petit peu triste, je dirais, pour l'ensemble de la profession, c'est de se sentir un petit peu comme... Voilà, l'amour qui nous est porté quand même à géométrie variable et en fonction des événements.
C'est quelque chose que l'ensemble des professeurs a pu ressentir hein, au moment de ces réactions, avec des mots très forts. L'école comme sanctuaire, Sébastien Ledoux, sanctuaire, mais c'est bien compliqué d'être un sanctuaire alors que l'on est complètement inséré dans la société.
Bon, excusez-moi, je pense que sanctuaire, on est vraiment dans ce qu'on appelle des éléments de langage de la communication politique. On le sait, nous, enseignants, c'est un mot tellement creux. Et qu'on est justement aux interactions sociales de beaucoup d'évolutions. On l'a dit, on en parle depuis le début de l'émission. Il ne peut pas y avoir de sanctuaire. C'est un lieu de réflexion, de transmission, mais qui est traversé donc par justement des évolutions sociales que nous apportent aussi les jeunes. Il y a toute la dimension numérique qui est énorme. C'est un immense défi aujourd'hui, justement, ces réseaux numériques par rapport à l'école. Et donc, on est effectivement finalement renvoyé à être un rempart contre le terrorisme, à être un rempart pour porter la liberté. C'était un peu déjà le cas en janvier 2015 dans les réactions finalement post-attentat Charlie Hebdo, où l'école justement a été considérée comme le cœur battant de la République. Et donc, force est de constater que dans nos conditions de travail, ben, on les retrouve pas. On retrouve pas justement cette priorité-là. Donc il y a du symbolique qui est apporté par le pouvoir politique. Et puis concrètement, on se retrouve avec des mesures. Les dernières en date, c'est des temps de formation hors temps scolaire. Bon, les temps de formation hors temps scolaire, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire justement une mise en cause des temps de formation des enseignants. Parce que on va trouver difficilement des enseignants sur les temps scolaires, enfin, sur les vacances scolaires ou en dehors du temps scolaire pour y aller. Et puis, on va trouver difficilement des formateurs aussi. Donc, c'est vraiment cette contradiction majeure qui, je pense, met en difficulté les enseignants et plus que ça. Enfin, les plonge dans un certain désarroi. Donc là, il faudrait un jour que finalement, effectivement, les pouvoirs publics changent de regard sur les enseignants.
Et oui, parce que c'est difficile de dire sans cesse que c'est l'école qui peut sauver la République et la démocratie. Et puis, le reste de l'année, Dalila Chalabi se dire, mais mince, c'est de plus en plus dur d'enseigner. D'ailleurs, on le voit bien en lien à ce qu'on l'a longtemps appelé les vocations, le manque d'enseignants aujourd'hui. Ce n'est plus un métier qui fait rêver.
Oui, tout à fait. Je dirais que, enfin, je mettrais en lumière le paradoxe en fait entre l'image qu'on nous donne en fait à l'heure actuelle depuis malheureusement ces deux assassinats en tant que rempart contre l'obscurantisme et une école comme un sanctuaire. Mais je dirais que effectivement nous manquons de reconnaissance professionnelle. Les demandes, les revendications des enseignants ne sont pas entendues, notamment par rapport à notre pratique, hein, à nos conditions de travail. Donc, je dirais que également, comment dire, les perspectives d'évolution dans le métier sont quand même très fermées, et ce n'est pas un métier qui attire à l'heure actuelle. Moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec des étudiants inscrits en licence 3 et qui me disaient qu'effectivement ils préféraient la recherche à l'enseignement parce que les conditions d'exercice devenaient déplorables. Donc l'association des professeurs d'histoire-géographie à ce titre a rédigé de nombreux communiqués. Par exemple, dans le cadre de la réforme du lycée, hein, sur les épreuves en AGGSP, sur le contrôle continu, mais également sur la dégradation des conditions d'exercice des enseignants. Donc, c'est vrai que la situation est complexe, et je rappelle que notre mission, quand même, est celle d'instruire les futures forces vives de la nation. Donc, on demande effectivement plus de reconnaissance.
AGGSP, histoire, géographie, géopolitique et sciences géopolitiques. Ah bah oui, mais bien sûr, hein, ça, EMC, EMI, AGGSP. Non mais ce qui est très intéressant à observer, c'est l'ignorance qu'une partie de la population a du fonctionnement de l'éducation nationale. Et je mets de côté ces sigles-là, tout simplement pour évoquer certains qui ont dit il est des enseignants qui n'osent plus enseigner la Shoah. C'est quelque chose qui est complètement déconnecté de la réalité du travail. C'est au programme. Elena Pavel, est-ce que certains profs mettent de côté des chapitres parce qu'ils disent que c'est trop dangereux?
Sincèrement, moi, je ne l'ai jamais entendu. Après, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais moi, j'enseigne en éducation prioritaire depuis bientôt 15 ans. Et je vous avoue que quand un ancien président de la République brandit ce genre de propos, j'ai envie de lui demander des chiffres, d'où il tient ça. Ça me laisse assez... que vous ayez des contestations sur des cours, que vous ayez des désaccords, que vous ayez des débats, pour plein de raisons différentes, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes, des ados, ils ont des postures, ils ont des revendications. Après, cette espèce de verdict, et puis en plus c'est très dur à porter, parce que un politique qui dit ça, c'est un peu désigner un enseignant comme une victime ou comme un lâche. Nous, on fait cours tous les jours. Sur la méconnaissance aussi du système scolaire, au-delà des politiques, il y a aussi malheureusement les parents, juste parce que sur nos conditions, Dalila a parlé des conditions d'enseignement, mais je pense que les premières victimes des réformes, ce sont pas nous, ce sont les élèves. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous annoncez en ce moment que les épreuves de bac pro de tronc commun vont avoir lieu au mois de mars à la rentrée 2014, et donc qu'après les élèves de bac pro n'auront plus de cours d'histoire-géographie, et qu'en même temps on vous dit attention, vous devez faire des projets, vous devez défendre la laïcité, c'est un peu le grand écart. Et les collègues de bac pro se sentent, la collègue d'Edmé Bouchardon l'a dit, le conflit israélo-palestinien, c'est moins de 10 minutes dans une année d'élèves de bac pro. Donc à la fois on vient nous chercher sur des terrains, on est content de nous trouver, vous vous censurez, vous enseignez pas, etc. Et en même temps on est quand même tenu corseté par un cadre. Et si on ne nous donne pas de la place, si on ne nous donne pas des heures, et ben en fait, on ne peut rien faire. Et faites cours à 40 élèves. Je vous mets au défi de savoir, dans les 40, qui a retenu quoi de votre heure de cours sur les belles valeurs de la laïcité et de la démocratie. On sait aussi que l'effectif, l'accompagnement, le suivi, vous avez des collègues avec des réformes du lycée qui sont professeurs principaux d'une classe qu'ils ne voient pratiquement jamais. Ils ne croisent jamais leurs collègues en salle des profs. On est complètement éclatés, un peu comme des billes de billard, qu'on enverrait aux quatre coins comme ça du tapis. Il y a vraiment, si on veut qu'on fasse corps, ce qu'on nous demande de faire corps dans les moments difficiles, mais il faut nous laisser travailler en fait, et il faut prendre soin des élèves. Je vous assure que beaucoup de parents n'ont pas idée du brinque-ballement de leurs enfants. Ils vont chercher les notes, ils vont chercher l'examen, mais il y a aussi un quotidien de l'enfant, et ça, je pense qu'il faut aussi le dire.
Sébastien Ledoux.
Alors, sur ce qui était justement dit et véhiculé, donc toute la semaine, et répété, même jusqu'à un ancien président de la République, François Hollande, pour ne pas le nommer, qu'on n'enseignait plus la Shoah. Bon, on parlait de désinfox tout à l'heure. On est dans la... Je suis désolé de le dire. En fait, on est dans la désinfox, là. Enfin, on est vraiment dans la fausse information qui circule depuis une vingtaine d'années, à partir de témoignages individuels, mais qui n'ont jamais été documentés scientifiquement. Donc, je pense que là, il faut vraiment clarifier ça, ce point-là. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des difficultés, des mises en cause, effectivement, ça existe, et donc il ne s'agit pas de le nier, mais vous voyez qu'on passe à des témoignages individuels, à « on n'enseigne plus la Shoah », etc., etc. Il y a énormément de projets qui sont faits chaque année par des enseignants, y compris en REP, c'est-à-dire y compris face à des élèves justement d'éducation prioritaire qui sont en général plus sensibilisés, en tout cas qui peuvent être amenés à contester tel ou tel point. Il y a énormément de projets qui sont faits chaque année, donc il faut le répéter. Donc c'est vraiment, là pour le coup, enfin, je pense qu'il s'en rend pas compte quand il dit ça, notre ancien président de la République, mais c'est vraiment ne pas rendre hommage au travail des enseignants au jour le jour et au quotidien. C'est vraiment, c'est vraiment une mise en cause presque, en tout cas c'est perçu comme ça par un certain nombre de collègues, de cette question-là. Ce qui m'amène à autre chose, c'est-à-dire le climat post-attentat, ça a été défini par un sociologue américain qui s'appelle Randall Collins. Le climat post-attentat, c'est toujours ce qu'il appelle une zone d'hystérie, où en fait, vous avez différentes personnes qui vont, par souci de cohésion nationale, porter des jugements, des accusations sur telle ou telle personne, et qui prennent, les zones d'hystérie, qui prennent vraiment une dimension complètement irrationnelle. Donc là, malheureusement, cette semaine, on était, et pas qu'avec ça, mais sur différents propos qui sont justement sur cette question de zone d'hystérie, comme après Samuel Paty, on avait parlé des complicités universitaires, etc., etc., au plus haut niveau de l'État. Donc c'est ça qui est un peu embêtant, évidemment. Mais c'est propre à ces périodes post-attentat.
Dalila Chalabi, tout comme on disait que l'école n'est pas un sanctuaire au sens où c'est un mot creux parce que l'école est complètement insérée dans la société, tout ce que nous évoquons, tout ce combat à mener pour émanciper les élèves, les faire réfléchir, leur montrer ce qu'est la liberté et tout simplement se situer dans le monde, ce n'est pas non plus l'apanage des enseignants et des enseignantes. On a parlé des parents d'élèves, on pourrait parler de l'ensemble des citoyens aussi.
Oui, tout à fait. C'est une mission collective, que ce soit là, je parle de la coéducation également avec les parents. Donc, il faut vraiment que ce travail soit fait de manière collective. donc à partir de nos programmes, mais aussi ne pas s'auto-censurer, parce que j'entendais ce que disaient mes collègues précédemment. Je ne pense pas que voilà, il y ait véritablement une auto-censure. Nous enseignons tous les sujets, même les sujets dits sensibles, et effectivement, il y a des sujets liés à l'actualité. Hein. Donc, par exemple, en ce moment, le conflit israélo-palestinien, mais pas que. Donc, les témoignages, l'information, le travail que nous pouvons faire au quotidien auprès de nos classes est primordial et permet justement de fixer cette culture commune et d'adhérer finalement aux valeurs collectives, aux valeurs républicaines qui sont les nôtres et qui nous permettent justement d'avancer, de faire progresser les élèves.
Et notamment grâce à des initiatives comme le prix Samuel Paty.
Je voulais pas en arriver là, c'était pas du tout ce que je voulais. Je le dis à la police, c'était une blague cette vidéo. Il me faut des followers. Les gens y ont cru, j'ai trouvé ça drôle au début. On voyait ma tête partout dans les médias. Maintenant ça part en vrille, alors il faut que tout le monde le sache. Je suis désolée, mais c'était pas censé en arriver là. C'était juste une vidéo avec mes potes pour rigoler. Les informations sur le gouvernement, on n'en a jamais eu. Le groupe secret, c'était une invention. Je vous dis la vérité, c'est vous qui avez créé ça, pas moi.
Avec ce projet, on a voulu vous montrer qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend.
On s'est rendu compte que des fois, on ne vérifie pas d'où viennent les informations que l'on reçoit.
On réalise que certaines fausses informations peuvent être dangereuses et pousser les gens à croire n'importe quoi.
Durant nos recherches, on a découvert que Samuel Paty avait travaillé sur la couleur noire. Alors on s'est dit que ce serait une bonne idée de lui rendre hommage dans la vidéo en parlant d'un groupe de gens habillés en noir.
La classe de 4e du collège Jacques-Yves Cousteau à Breuil-le-Vert dans l'Oise, lauréat pour les collèges du prix Samuel Paty. Pour terminer, Elena Pavel, ce côté bouclier de la République qu'on affuble au corps enseignant, c'est bien compliqué quand même. Hein, aux enseignants de régler tous les problèmes.
C'est ça. Mais alors, pas seulement les problèmes liés à la montée des extrémismes ou du religieux, hein, les problèmes sociaux aussi. On se retrouve, et c'est normal, hein, à devoir signaler une famille dysfonctionnelle, on se retrouve à prendre en charge un enfant qui dort à la rue, une famille qui vit à l'hôtel social. C'est pour ça que ce terme de sanctuaire, c'est une telle méconnaissance, en fait, de notre métier. Et c'est ça un peu aussi qui peut être blessant. Vous avez un dessin assez drôle hein, de Charlie Hebdo, de ce corps de l'enseignant plein de couteaux. Et puis tout le monde se cache derrière. Nous, je pense qu'on aurait un petit peu besoin qu'il y ait un peu moins de monde derrière nous et que chacun prenne un peu sa part. C'est-à-dire les acteurs, alors ils sont très engagés, civils de la société, mais aussi un peu les politiques, hein, qu'on ne nous sorte pas du placard quand on a besoin de nous. Ça serait un peu plus simple pour nous aussi.
Sébastien Ledoux, moi je retiens, hein, laissez-nous faire notre métier. Et puis, c'est l'ensemble de la société qui est concernée. Ce ne sont pas les enseignants qui vont régler le problème du terrorisme.
Exactement, à chacun sa part de responsabilité. On a vraiment assigné à l'école et donc à une responsabilité individuelle. C'est ça qui est très embêtant. Hein. Une responsabilité individuelle de l'enseignant qui doit, lui, faire face à différents problèmes sociaux, à des enjeux sociétaux considérables. Et donc, cette mise en responsabilité, en fait, elle marque une certaine fragilité possible de l'enseignant. Parce que s'il se passe ce qui s'est passé vendredi dernier, quelle est sa responsabilité? Il n'en a aucune. Il en a aucune et il en aura aucune, malheureusement, si un jour un autre attentat arrivera. Donc c'est absolument important de le dire et c'est absolument fondamental de dire que les enseignants doivent continuer à travailler dans de meilleures conditions qui sont celles d'aujourd'hui. Voilà.
Juste pour qu'ils puissent assurer leur mission d'enseignant et d'enseignante. Et notre responsabilité, c'est de ne pas oublier Samuel Paty et Dominique Bernard comme une évidence. Merci à tous les trois, Elena Pavel, Dalila Chalabi et Sébastien Ledoux, de ces interventions, de cette réflexion dans l'émotion comme une évidence. On l'entend bien. Et merci à l'Association des profs d'histoire et de géographie pour son travail et ce prix Samuel Paty. Il est temps pour nous, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
pourquoi la ville de Linz a-t-elle débaptisé la rue qui honorait Ferdinand Porsche? Les polémiques concernant le changement de nom de nos rues posent le problème des critères que l'on retient pour remplacer un patronyme par un autre. Pour montrer qu'il ne s'agit pas là d'un débat uniquement franco-français, l'exemple que j'ai privilégié dans cette chronique concerne l'Autriche. Le pays natal d'Adolf Hitler, annexé en 1938 par l'Allemagne nazie, s'est longtemps présenté comme une victime du nazisme. Mais depuis la fin des années 1980, la responsabilité des Autrichiens dans les crimes de masse du régime hitlérien a été progressivement reconnue par les autorités de ce pays. La municipalité de Linz, une commune de la Haute-Autriche située à moins de 200 km de Vienne, s'est penchée sur le problème et le rapport rédigé par un groupe d'experts a placé Ferdinand Porsche dans la catégorie de ceux qui ont propagé de manière active l'idéologie raciste et antisémite des nazis. Ce rapport a fait grand bruit, compte tenu de la notoriété du personnage. Né en 1875 dans une petite bourgade de l'Empire austro-hongrois, naturalisé allemand, il est devenu ingénieur puis entrepreneur, jouant un rôle essentiel dans l'histoire de l'automobile et de l'aéronautique. On le présente souvent comme l'inventeur de la voiture électrique et de la voiture hybride au début du XXe siècle. En 1923, il fonda l'entreprise Daimler-Mercedes-Benz, qui existe toujours aujourd'hui. Quelques années plus tard, il inaugura avec son fils sa propre société à Stuttgart en lui donnant son nom. Cette réussite industrielle attira l'attention d'Adolf Hitler, qui voulait démocratiser l'automobile en Allemagne. Ferdinand Porsche eut ainsi les coudées franches pour mettre au point la voiture du peuple, c'est-à-dire en allemand la Volkswagen. Ayant adhéré, comme beaucoup d'industriels allemands au parti nazi, Porsche fut nommé coordinateur de l'effort de guerre industrielle par Adolf Hitler. Moteur d'avion, munitions, armes, véhicules militaires furent alors placés sous son autorité. Pendant l'occupation de la France, il fut chargé de contrôler la collaboration industrielle imposée au personnel de l'usine Peugeot à Sochaux. Après avoir dénoncé à Hitler en personne leur mauvaise volonté et leurs actes de résistance et de sabotage, il fit déporter des ouvriers ainsi que 8 directeurs de l'entreprise. À la fin de la guerre, Ferdinand Porsche fut arrêté et emprisonné. Ayant sombré dans la dépression, il mourut en 1951 sans assister à l'incroyable succès de sa marque. Pour honorer la mémoire de ce grand industriel, la ville de Linz décida en 1954 de donner son nom à l'une des rues de sa ville. Mais les révélations sur son passé nazi ont poussé récemment les élus à faire machine arrière. Cette décision n'a pas fait l'unanimité, car les porte-parole de l'entreprise Porsche ont estimé qu'aucun progrès social ne sera atteint en faisant table rase de l'histoire dans l'espace public. La rue Ferdinand Porsche s'appelle aujourd'hui le Wittgensteinweg. La ville a donc décidé finalement d'honorer un philosophe, Ludwig Wittgenstein, plutôt qu'un patron. Je laisse aux auditeurs le soin de juger s'il s'agit là ou non d'un progrès social.
Nous jugerons, Gérard Noiriel. Merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscan Dudet, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayouen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire, écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Pour comprendre le conflit israélo-palestinien, il est essentiel d'en maîtriser les mots.
Guillaume Erner.
C'est pourquoi Les Matins vous propose un hors-série, un podcast où les meilleurs spécialistes de la région donnent un sens plus précis aux mots de ce conflit.
Hors-série, Les Matins de France Culture. Israël-Palestine, les mots de la guerre.
À écouter sur franceculture.fr et l'application Radio France.